Une vie, une œuvre. Aujourd'hui, Maria Casares. Maria Casares est née le 21 novembre 1922 en Espagne et meurt le 22 novembre 1996 à Alloux, en Charente, à l'âge de 74 ans. Cette actrice de cinéma et de théâtre est considérée comme l'une des plus grandes tragédiennes françaises de la seconde moitié du XXe siècle. Maria Casares obtient son premier rôle en 1942 et au cours des cinq décennies suivantes, jusqu'à l'année de sa mort, elle joue dans plus de 120 pièces, issues aussi bien du répertoire classique que des auteurs de la modernité. Chevalier de la Légion d'honneur, commandeur des arts et des lettres, Maria Casares obtient le Molière en 1989 pour son rôle dans Hécube d'Euripide. Ce documentaire sera peut-être pour vous l'occasion de découvrir l'art et la personnalité d'une comédienne hors norme qui a participé intimement à l'histoire du théâtre contemporain. Maria Casares, une voix, un regard, un corps, une présence exceptionnelle. Mise en scène par les plus grands metteurs en scène de la modernité, elle est une femme d'engagement et de passion. Figure de proue du TNP, de Jean Villard, chorégraphiée par Maurice Béjart, elle défend le théâtre d'Albert Camus, avec lequel elle vit une passion amoureuse. Catherine Camus, la fille du prix Nobel de littérature, écrit à leur sujet. Leurs lettres font que le monde est plus vaste, l'espace plus lumineux, l'air plus léger, simplement parce qu'ils ont existé. Albert Camus disait d'elle qu'elle était l'unique, et Maurice Béjart qu'elle était l'une des trois grandes danseuses avec qui il avait travaillé. Tout de suite, Myriam Guillot et Lionel Quentin signe le documentaire consacré à Maria Casares.
Celui qui s'ennuie dans sa chambre s'ennuie partout ailleurs. Tu peux au contraire découvrir de ta fenêtre une infinité de ciel. Si tu es las de voir devant toi un visage aimé, regarde-le, attends, et bientôt il te surprendra. Seulement regarde-le, l'habitude est en toi, elle t'aveugle. Il n'y a rien de plus riche qu'un visage aimé. Rien de plus mystérieux dans ses replis les plus connus, ni la rue, ni la mer, ni le feu. Regarde et vois, regarde, vois et reconnais.
Maria Casares, une force solaire.
La première fois où j'ai rencontré Maria, c'était dans le Peer Gynt monté par Patrice Chéreau. Et je dois dire que...
Nada Strancard.
Quand je l'ai vue arriver, j'ai trouvé qu'elle avait une silhouette d'une incroyable jeunesse. En plus, elle était habillée très, très, très moderne pour aujourd'hui, c'est-à-dire en legging. Enfin, elle avait toujours un collant, des petites bottines. Et un grand pull assez large. Et elle était toujours habillée pareil, je l'ai toujours vue habillée de la même manière. Mais du coup, ça lui donnait une silhouette de jeune fille. Ensuite, en me rapprochant d'elle, l'autre chose qu'on voyait, c'était son regard, qui était d'une acuité, d'une pénétration assez forte. Et ensuite, ses mains, qui était toujours en mouvement. Enfin, on avait l'impression que c'était comme des oiseaux qui n'arrêtaient pas de volter d'un côté et de l'autre. Enfin, et la manière dont elle se déplaçait, elle avait un déplacement extrêmement nerveux, toujours. Comme si elle partait toujours en bataille avec quelqu'un. Ou contre quelqu'un, ou dans des aventures nouvelles. Enfin, elle avait un côté très combatif dans la marche. Toujours.
Maria était très, très, très attachée à ses origines galiciennes.
Florence Forsyth. Hein,
à sa terre natale. C'est véritablement une celtibère. Et quand elle était petite, à la Corogne, elle adorait partir sur les plages, hein, grimper sur les rochers noirs. Et alors là, c'était l'océan, c'était l'Atlantique qui était là. Et Maria, du haut de ce... Elle était juchée donc sur ces rochers. Et alors elle défiait l'océan. Elle défiait l'océan, ce qu'elle nomme, si vous voulez, le fauvrageur. le père, le fauve rageur, et elle le défiait en lui lançant à la figure l'estance du cid de Guilhem de Castro. Alors là, c'était extraordinaire. Et quand elle rentrait à la maison, ce qui se passait, c'est que son père lui disait « Tu n'es qu'un cri ».
Les faits qui ont présidé à ma naissance, l'éducation reçue, ma courte existence dans les douces terres galiciennes frappées par l'eau de l'Atlantique, m'ont doté de quelques trésors. Une santé à toute épreuve, le sens du balancement des saisons, le goût de la nature et partant du naturel, le pouvoir de concentration, l'imagination, un intérêt passionné pour le cœur humain, l'attrait du mystère, la quête d'univers poétique, le dégoût de la vulgarité où qu'elle se trouve, les richesses de la solitude, un caractère fort, la générosité, l'auto-exigence, l'amour de ceux qui m'avaient faite, la fierté de ce qu'il m'avait donné, la familiarité des textes, des rituels, de la musique, du spectacle théâtral, une prescience de la vie publique, des marées humaines, des vanités de la gloire. Et surtout, le sens du sacré.
En route !
Matin d'hiver à Lavergne, en Charente, maison de Maria Casares. Nous sommes dans la bibliothèque fumoire, au mur rouge vermillon et au coussin noir, où elle aimait se retrouver.
On a vraiment l'impression d'être en Galice, en fait, ici, quand on est à Lavergne, avec tous ces livres-là qui sont sur ces étagères. Et en même temps, il y a quelque chose de très, très, très émouvant dans la mesure où le père de Maria était vraiment quelqu'un qui aimait les livres et il les reliait. Et puis il y a eu ce moment tragique, ce moment terrible en 39 de l'autodafé de la Corogne. Tous les livres de Santiago Casares Quiroga ont disparu, ont été brûlés, ont été détruits. Et peut-être que s'il y a autant de livres ici à Lavergne et que Maria était une grande, grande amoureuse des livres, c'est peut-être pour reconstituer cette perte, cette bibliothèque qui est partie en fumée. Il y a encore quelques exemplaires qui sont dans les archives de la ville de la Corogne, mais il y en a si peu. C'était des exemplaires sur la vie des insectes, sur les étoiles, sur les astres, sur et puis les poètes comme Quiros, comme Saint Jean de la Croix, des poètes aussi galiciens. C'était toute une vie comme ça qui est partie. Et je crois que effectivement, elle a écrit Résidente privilégiée ici dans cette maison. Elle l'a écrit comme une sorte de gestation parce qu'elle l'a écrit en 9 mois. Et c'est un livre de mémoire, c'est un livre de la mémoire, de cette mémoire enfouie qu'elle n'a pas pu expurger. Il a fallu attendre des années, des années, des années pour qu'elle puisse en parler, pour qu'elle puisse accoucher sur le papier son histoire, l'histoire de sa famille, l'histoire de cette ressouvenance de ce qu'étaient ses ancêtres. Et puis, elle a choisi aussi sur la couverture du livre, qu'est-ce que l'on voit ? On voit une tapisserie de Goya, où on voit un petit pantin comme ça qui est jeté en l'air, qui est complètement désarticulé, avec des jeunes femmes comme ça qui crient et qui... Et ça, je crois que c'est l'image qu'elle a voulu montrer vraiment à la face du monde de ce que l'on avait fait de son père. Je crois que Résidente privilégiée, c'est ça. C'est ce livre d'une mémoire qui restitue, je veux dire, une sorte de traumatisme. Parce que les Casares, comme beaucoup de réfugiés, ne parlaient pas de ce qui s'était passé. Ils ne pouvaient pas en parler. Et je pense qu'il a fallu attendre 1980, hein, donc des années, pour que Maria Casares puisse colmater, en fin de compte, cette histoire. Et nous la donner ce pan de vie qui était si important pour elle.
Mon père, en effet, a été quelqu'un, un personnage, en dehors d'être mon père, a été un personnage pour lequel j'ai eu une admiration et puis un attachement extrêmement profond.
Un homme passionné par la politique.
C'était pas exactement la politique, c'est-à-dire que c'est la politique qui a tout... qui a tout abîmé. En fait, il était passionné. Vous savez, c'est au moment de la monarchie en Espagne, c'était le moment où on cherchait des libertés. Enfin, des libertés. Il y en avait aussi, mais une manière de vivre nouvelle. C'était un homme passionné par ce que la France lui avait enseigné, par une sorte de... à cette époque-là, on pourrait appeler ça un progressiste, amoureux de la science, mais aussi amoureux de l'art et de la littérature, très, 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 très fortement. Et puis, qui... comme tous les Espagnols d'ailleurs, je crois, représenter sa vie. J'ai été très frappée dernièrement quand je suis allée en Espagne. J'ai l'impression que l'Espagnol, pour s'accrocher à la terre, à s'accrocher au monde, devait représenter sa vie.
Il l'a joué.
Et qu'en fait, la passion dont on parle de l'Espagne, c'est une manière de vivre pleinement une existence où la mort est au bout. En Espagne, on a tous le sentiment de la mort, très fortement depuis la naissance.
Ouais, comme dirait Unamuno, le sentiment tragique de
voilà.
La vie.
Et alors, cela donne le donjuanisme, c'est-à-dire cette espèce de goût de la vie, de goût de mordre la vie à pleines dents.
Petit forcené.
Et c'est cela. Et du présent, d'ailleurs.
Maria arrive en France avec sa mère. Comment ces deux femmes vivent-elles leur exil dans un pays inconnu ?
Quand Maria arrive en France avec Gloria, tout de suite il y a un couple de sympathisants espagnols, de réfugiés espagnols, qui les reçoivent. Et alors ce couple, c'est Colonna Romano et Pierre Alcover. Et donc, ce sont deux comédiens. L'une, donc Colonna Romano, a travaillé avec Sarah Bernhardt, donc c'est le côté très élégiaque. Et puis Alcover, lui, par contre, a travaillé avec Antoine, le metteur en scène Antoine, donc d'une façon très réaliste. Et donc, ils prennent en charge ces deux femmes qui sont des réfugiés. Ce sont des réfugiés et la mère de Maria ne parle pas le français. Et d'ailleurs, elle ne voudra jamais apprendre véritablement le français parce que elle pense qu'elle va rentrer en Espagne. Elle pense que c'est juste un moment, une parenthèse, et que dès que la guerre sera finie, eh bien, elle rentrera chez elle. Et dans leur bagage, la mère de Maria a emporté sa zibeline, parce que c'était quand même une femme de ministre, et Maria avait deux livres de Shakespeare qui étaient là, que son père lui avait offert. Et voilà, donc c'est leur seul trésor. C'est leur seul trésor, et quand elles arrivent à Paris, eh bien, elles vont rue de Vaugirard dans un hôtel, tel Paris-New York, et elles vont être donc guidées et accompagnées par ce couple de comédiens. Et c'est comme ça qu'en fin de compte, par hasard, Maria, qui rêvait d'être danseuse, cascadeuse, écrivain ou autre chose, eh bien, va embrasser la carrière théâtrale.
Il y a un moment émouvant où justement elle leur lit un poème ou un texte.
Oui, c'est un dimanche où Gloria a été invitée par les Alcover chez eux. Et puis, il y a Pierre Alcover qui dit à la mère de Maria, mais enfin, qu'est-ce que fait Maria? Et Gloria, qui rêve en fait de prince, de qui était un petit peu une sorte de... Maria l'appelait un peu Madame Bovary, sa maman. Et donc, en fait, elle rêvait de prince charmant. Et alors, ce que fait Gloria dit, comme de toutes les mamans disent, ben, tu vas nous raconter une histoire, tu vas nous dire un poème. Et alors là, à ce moment-là, il y a Maria qui se met debout, à trembler, à pleurer, à être là complètement tétanisée, et d'un cri sort les Werst du site de Guylaine de Castro. Et alors là, Alcover, voyant Maria Cazares, Maria, la petite Maria qui est là et qui se met comme ça à trembler de tous les côtés en étant dans un état de transe et qui ne peut plus s'arrêter et qui dit, mais attends, il faut qu'elle arrête, il faut lui faire du théâtre, cette petite, parce que sinon elle va étouffer de partout.
Mon nom est Maria Cazares. Je suis née en novembre 1942 au Théâtre des Mathurins. J'y ai été élevée sous la tutelle de Marcel Errant et Jean Marchat, deux Français de pure souche, aussi dissemblables que possible, et qui ont combiné leurs efforts pour me doter, d'une part, du bon lot d'humour et d'innocence qu'il faut pour vivre en coulisses et sur la scène, d'autre part, du goût de l'aventure et de la capacité nécessaire pour vaincre mes pusillanimités et me permettre ainsi de m'aventurer. Ils m'ont aussi donné mon nom.
Les grandes étapes comme ça, d'abord c'est Marcel Errant. Pour moi, alors là, c'est, si vous voulez, le père. Enfin, c'est lui qui m'a éduqué au théâtre. En dehors des cours,
en dehors de René Simon.
Mais Marcel Errant, les 3 ans que j'ai passé avec lui, quand je l'ai quitté, je pleurais, mais j'avais déjà aussi cette chose, c'est que je ne voulais pas le confort, je ne voulais pas m'asseoir dans un fauteuil, je voulais... Et dès que ça commençait à aller très bien, je me disais que par santé, il fallait changer. Il a très bien compris, j'ai d'ailleurs rejoué après avec lui au Festival d'Angers, j'ai joué avec lui au Théâtre Montparnasse, une pièce de Gracq. Bon, mais il fallait que je change de lieu, de public, que je... parce que là, ça devenait vraiment trop... un peu enfant chéri, tout de même.
Et vous ne pouvez pas vous fixer. Vous avez besoin de repartir vers d'autres choses.
C'est un besoin.
Vous avez besoin de bondir.
Aussi. C'est une peur aussi. C'est aussi un goût peut-être de combat. C'est une peur de sclérose. Et alors, instinctivement, si on veut aussi, enfin aveuglement, à tâtons, j'ai toujours essayé de partir dans tous les sens. Et quand j'étais dans un grand théâtre, partir dans un petit, quand je prenais des grandes pièces... Après, une pièce à deux, et puis après, quand je n'en pouvais plus partir avec mes gens faire de la danse, et puis après, quand j'en pouvais plus non plus, je ne trouvais plus d'endroit, à partir en Argentine, rejouer pour la première fois dans ma langue, en espagnol, et ainsi de suite. Enfin, c'est une nécessité, comme ça.
C'est ce besoin de vie, de sentir la vie.
D'excitation. Alors, il y a une partie destructive, bien sûr, mais il y a aussi c'est la seule manière que j'ai de qu'il y ait une construction qui se fasse aussi autre.
Les Justes d'Albert Camus, Maria Cazares et Serge Reggiani, 1949.
Pourquoi es-tu triste? Il y a 2 jours, ton visage resplendissait, tu semblais marcher vers une grande fête. Aujourd'hui ?
Aujourd'hui, je sais ce que je ne savais pas. Tu avais raison, ce n'est pas si simple. Je croyais que c'était facile de tuer, que l'idée suffisait, le courage. Mais je ne suis pas si grand et je sais maintenant qu'il n'y a pas de bonheur dans la haine. Tout ce mal, en moi et chez les autres. Le meurtre, la lâcheté, l'injustice. Ah, il faut que je le tue.
Mais j'irai jusqu'au bout, plus loin que la haine.
Plus loin? Il n'y a rien.
Il y a l'amour.
L'amour? Oh non. Ce n'est pas ce qu'il faut.
Oh, Dora, comment dis-tu cela, toi, dont je connais le cœur?
Il y a trop de sang, trop de dure violence. Ceux qui aiment vraiment la justice n'ont pas droit à l'amour. Ils sont dressés comme je suis, la tête levée, les yeux fixes. Que viendrait faire l'amour dans ces cœurs fiers? L'amour courbe doucement les têtes, Yannick. Nous, nous avons la nuque raide.
Mais nous aimons notre peuple.
Nous l'aimons, c'est vrai. Nous l'aimons d'un vaste amour sans appui, d'un amour malheureux. Nous vivons loin de lui, enfermés dans nos chambres, perdus dans nos pensées. Et le peuple, lui, nous aime-t-il? Sait-il que nous l'aimons? Le peuple se tait. Quel silence!
Ce qui relie Albert Camus et Maria Cazares, c'est d'abord c'est l'exil, une sorte d'exil. En même temps, c'est le théâtre et puis c'est l'Espagne. Et ensemble, ils vont vivre une très grande histoire, une très grande histoire d'amour. Et à la fin de sa vie, Maria, dans les derniers jours, ne cessait de parler de Camus. C'est comme si il était là près d'elle et elle se nimbait en fait de sa présence. Donc pour dire à quel point Camus aura compté pour elle. Alors bien sûr, Camus, c'est un homme à femme qui aime l'amour, qui aime les femmes, qui est pris en fait d'une autre chose qu'il partage avec Maria, qui est le donjuanisme. Parce que tous les deux, ce sont deux grands donjuans. Et peut-être parce que Camus est quelqu'un qui sait qu'il a une fragilité, puisqu'il est tuberculeux, il vit sur l'instant, comme Maria vit aussi sur l'instant pour d'autres raisons, qui sont des raisons d'une urgence de vivre, parce que elle sait, puisqu'elle a vu à Madrid des jeunes hommes qui étaient là, qui revenaient de la guerre d'Espagne, qui étaient en train de mourir. Et je pense que ce qui s'est passé pour Maria, c'est que quand elle a vu à 13 ans ces jeunes hommes, ces soldats, sur leur lit d'hôpital, il y a quelque chose qui a décelé son regard. Et là, elle a pu voir la mort en face. Et quand elle voit Camus qui est comme son père, tuberculeux, je pense qu'il y a une sorte de protection par rapport à cet homme qu'elle aime profondément. Et un jour, moi, je lui demandais qu'est-ce qu'il avait de différent des autres, Camus. Et Maria me dit, il savait rendre les autres intelligents. Il savait les voir tels qu'ils étaient, et en même temps, il n'y avait pas de jugement, il savait les comprendre. Et Maria, quand on lit la correspondance, on voit très très bien que dans cette correspondance, Maria a une force, a une conviction, et puis en même temps, elle ne transige pas. Quand Camus lui apprend que sa femme va accoucher, est enceinte et va accoucher, c'est elle qui rompt. Elle part. Elle se retire du jeu. Et comme disait Maria, je n'ai rien pris à qui que ce soit. En même temps, quand ils se retrouveront comme par hasard, le 6 juin 1948, alors que leur première nuit d'amour est le 6 juin 1944, la veille du débarquement, eh bien, ça sera de nouveau une nouvelle aventure. Et là, ce qui viendra, c'est la construction d'un amour don. Et donc, Maria et Camus vivront l'un et l'autre de leur côté, et en même temps, ils seront de toute façon incapables de se séparer. Et Maria, pour Camus, c'est à la fois la mère, à la fois le père, à la fois l'amante, à la fois la maîtresse, c'est tout, quoi. Et quand Camus a ses crises de mal-être, chez qui il va, vers qui il va, vers qui il se tourne, ben c'est chez Maria, c'est avec Maria.
4 janvier 1960. Maria vient de rentrer.
À son retour chez elle, elle a tourné la clé de la porte et a senti comme un frisson dans le bas des reins. Angèle était dans le couloir et Micheline Rozan l'a regardé et lui a dit « Albert est mort ». Elle n'a pas compris. Elle a entendu ces mots « Albert est mort » comme une voix lointaine qui n'était pas celle d'une personne réelle qu'elle avait devant elle. Elle n'a rien dit. Elle est allée s'asseoir comme une somnambule sur la banquette parcourue de frissons. Elle ne pouvait ni parler ni pleurer. Elle est allée dans leur chambre d'amour, dans le pigeonnier, et elle s'est effondrée seule en elle. Dans sa douleur qui lui brutalisait le corps et son cœur semblait s'être arrêté. Elle ne bougeait plus, ne savait plus où elle était. Elle ne voulait pas quitter cette chambre. Et la colère est montée, elle a hurlé et les larmes ont jailli. Elle n'arrêtait pas de pleurer. Son cœur hurlait, se déchirait. Elle cria à nouveau sans que sorte un son. Il ne devait pas mourir. Oh non, pas lui, pas lui. Et elle était perdue, ne désirant plus que la mort. Elle a hésité. Pendant 3 jours, elle est restée dans le pigeonnier, enfermée. Elle n'a cessé de pleurer. Elle ne savait plus qui elle était. Elle se saoulait de musique, Don Giovanni et les noces de Figaro. Puis elle a senti comme une force de vie la traverser. Elle vivra, oui, elle vivra, pour lui, pour eux, pour tous ceux qui ne sont plus et qui l'ont faite, ses amours. Gloria, Santiago, Marcel, Gérard, Albert, tous ces morts, elle ne les abandonnera pas dans cette vie. Et elle ne cessait de marteler le vide, ils m'ont fait confiance. Pour eux, pour ceux qui lui ont donné, elle doit vivre de tout son orgueil et regarder en face la vie et vivre pour ne pas oublier jusqu'au moment où Albert viendra la chercher.
Journal du Testament d'Orphée, film de Jean Cocteau, par Roger Pilaudin.
C'est moi qui interroge. Nous sommes la commission d'enquête d'un tribunal devant lequel vous aurez à répondre de certains de vos actes. Ce tribunal désirerait savoir si vous plaidez coupable ou non coupable. Voulez-vous donner lecture des 2 chefs d'accusation ?
Primo, vous êtes accusé d'innocence, c'est-à-dire d'atteinte à la justice en étant capable et coupable de tous les crimes au lieu de l'être d'un seul, apte à tomber sous le coup d'une peine précise de notre juridiction. Secondo, vous êtes accusé de vouloir sans cesse pénétrer en fraude dans un monde qui n'est pas le vôtre. Plaidez-vous coupable ou non coupable ?
Je plaide coupable. Dans le premier et le second cas, j'avoue être cerné par la menace des fautes que je n'ai pas commises. Et j'avoue avoir souvent voulu sauter le 4e mur mystérieux sur lequel les hommes écrivent leurs amours et leurs rêves.
Cocteau, c'est tout à fait... Alors là, c'était... c'était le poète, quoi.
C'était le son
c'est-à-dire
de la poète,
qu'il avait le chic au cinéma, où c'est pas vrai, celui qui fait tout. C'est le réalisateur, c'est le metteur, hein, c'est lui qui fait tout, c'est lui qui écrit le film, et nous on n'est que des bouts de plumes, c'est tout. Mais Cocteau nous donnait l'impression que nous créions quelque chose avec lui, et ça c'était bien sûr très agréable, bien sûr.
Mais est-ce que Cocteau n'a pas abusé un petit peu de cette image à un moment de vous, on voulait vous faire jouer toujours la mort, la catharsis? Ça ne vous a pas gêné?
Je crois que, d'abord, il ne voulait pas de moi. Il n'avait pas pensé à moi en premier lieu. Il avait pensé à Marlène Dietrich. Et puis, il n'a pas pu avoir Marlène. Et puis, je crois que... Alors, il m'a appelé parce qu'il m'aimait, il m'aimait bien. Mais, en fait, ce n'est que cette fois-là. Il m'a fait jouer la mort seulement. Cette mort, elle a compté. Hein.
Elle a compté, oui.
Oh là là.
Dominique Marny,
Cocteau. Il avait effectivement voulu qu'elle ait un visage très très lisse. Il y avait une poudre blanche et il avait dessiné ses yeux. Elle avait des yeux absolument magnifiques. Cette femme qui avait un physique extraordinaire, qui était d'une beauté ravageuse, qui avait une silhouette d'une élégance inouïe. Quand on la voit sortir de la Rolls au début du film, devant le Café des Poètes, elle est incroyablement belle, elle est incroyablement élégante, elle est énigmatique, on ne sait pas qui elle est. Et on ne le sait pas pendant longtemps, c'est ça qui est formidable, c'est que c'est à petite dose. Et Cocteau racontait d'ailleurs qu'il ne lui a pas toujours dit ce qu'elle incarnait pour que justement elle l'apprenne peu à peu. Et elle ne pouvait pas être mieux choisie, ça ne pouvait pas être mieux que Maria Cazares, qui arrive à être impassible, mais qui arrive aussi avec ses robes noires qui deviennent blanches tout d'un coup, qui redeviennent noires, avec cette taille de guêpe, avec cette gestuelle extraordinaire. Personne n'aurait pu incarner mieux la princesse qu'elle. Et ça, Cocteau ne s'était pas trompé sur la question.
Chut. Bon, silence. Chut. Moteur. Envoie.
Je pense qu'ils avaient cette liberté, l'un et l'autre, absolue, de faire ce qu'ils voulaient, comme ils voulaient, de ne pas obéir à des modes, d'être au-delà de tout ça, d'être supérieurs à tout ça. Ils étaient dans une sorte de très jolies compagnies intellectuelles, poétiques, voilà, elle comprenait son âme poétique. Voilà, il y a des gens avec qui on n'a pas besoin de parler. Je suis sûre qu'il n'avait pas eu besoin de lui expliquer grand-chose, qu'elle avait tout compris. Et elle avait, d'après ce que j'ai lu, elle avait quelque chose de très docile, au bon sens du terme. C'est-à-dire que quand on lui disait qu'il fallait jouer de telle manière, elle savait parfaitement s'adapter. C'est-à-dire, mais je crois vraiment, je me répète là, mais ce sens de la liberté, ce sens de l'indépendance, ce sens aussi de la révolte contre la bêtise, contre les idées reçues, c'était quelque chose qu'il partageait parfaitement.
Là où il y a eu la seconde grande expérience, c'est le TNP, que j'avais refusé pendant quelque temps, puis enfin je me suis décidée, je suis entrée pour un an, je suis restée 6. Et là, c'est une expérience de tout point de vue, au point de vue de travail, parce qu'on y travaille autrement, au point de vue de troupe, parce que tout d'un coup je trouvais pour la première fois une vraie troupe, au point de vue cadre, au point de vue Avignon, Chaillot, les grands cadres, où il y avait une nouvelle exigence qui se faisait, c'est-à-dire que si on ne voulait pas, on était 18 à l'époque, on était mort de fatigue parce qu'on répétait, on jouait sans arrêt, enfin c'était invraisemblable.
Le cadre gigantesque s'y imposait une fatigue énorme.
Et puis quand on quittait Chaillot, on allait faire des tournées où il y avait des cadres gigantesques, et puis voilà. Alors, les rôles aussi étaient...
De taille.
Alors, là, il a fallu que je me batte avec... Vous comprenez, ne pas, par exemple, ne me laisser aller à faire simplement de la voix du métier, mais en même temps, à me maîtriser complètement, à maîtriser quelque chose, à garder une exigence pour que jamais ce ne soit simplement m'appuyer à une colonne. Moi, par exemple, ce n'est que maintenant où je me sens un petit peu libre dans le théâtre, parce que pendant très très longtemps, on ne se servait pas de son corps en France, au théâtre. Ce qui était quand même assez extraordinaire, les acteurs, c'était des 10 heures plutôt.
Oui, et je me rappelle parfaitement au début de votre carrière, quand vous jouiez, de l'immobilité des acteurs. On aurait dit une sorte de colonne qui se déplaçait à peine. Et justement, votre mobilité leur apparaissait peut-être curieuse, parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir quelqu'un se mouvoir avec autant de liberté.
Et encore, je me retenais beaucoup là pour ne pas me mouvoir. mais enfin, il y avait cette contrainte que maintenant on a complètement libérée. D'ailleurs, maintenant on coupe le texte. Moi, je suis aussi pour le verbe au théâtre. Pour le corps, pour le verbe. Enfin... Et le théâtre, c'est un tout petit peu ça. C'est là où il y a une part de, qu'on peut appeler magie ou ce que vous voulez, ou qu'on peut appeler aussi érotisme, mais dans le grand sens. Où ça prend une valeur purement théâtrale. Et là, on ne le trouve pas ailleurs.
Olivier Py.
D'abord, pour moi, elle incarnait le Festival d'Avignon, mais le Festival d'Avignon vivant. Puisque je n'ai pas connu Villard, je n'ai pas eu la chance de le rencontrer. Et pour moi, elle était cette part de mythologie du festival, encore vivante, pas seulement parce qu'elle était sur Terre, mais aussi parce qu'elle était toujours en recherche de nouvelles aventures. Et il se trouve que je lui ai proposé l'année de sa mort, le visage d'Orphée que nous devions faire dans la cour, que nous avons fait dans la cour d'honneur, et j'ai eu le temps de le lui proposer. Elle m'a répondu positivement, et puis après, elle a été trop malade. Je ne savais pas qu'elle était malade, d'ailleurs, quand je lui ai proposé. Et c'est une anecdote touchante, le rôle s'appelait Victoria. Je ne savais pas non plus qu'elle s'appelait Maria Victoria. Donc je pense qu'elle a été touchée par ce, comment dire, cette préscience que j'avais pu avoir d'un nom qu'elle donnait moins de manière publique.
Le premier rôle que joue Maria au TNP, c'est Lady Macbeth. Et là, c'est absolument extraordinaire. C'est-à-dire que Maria, ça c'était André Casalas qui me racontait, quand elle arrivait en scène pour la scène du somnambulisme. La scène du somnambulisme n'avait pas été préparée par Jean Villard, parce que quand il y a les représentations donc au TNP de Macbeth, Villard est malade. Il est à l'hôpital et il n'a pas le temps de répéter. Et donc, c'est Gérard Philippe qui donne la réplique à Maria pour les répétitions. Et c'est Pierre Reynal, qui était un ami de Maria, qui avait travaillé avec Maurice Béjart, qui fait répéter Maria. Et l'audace et la singularité, la modernité que Cazares va apporter sur le plateau du TNP, c'est que, en fait, elle chorégraphie cette scène. Mais cette chorégraphie est conduite par ce que Maria vient de découvrir avec Reynal, qui est en fait une double partition. C'est-à-dire que pour entrer en scène, Maria a besoin de s'étayer une sorte d'édifice dans lequel elle va pouvoir avoir des points de repère. Alors, il y a deux partitions. La première partition, c'est celle du mouvement, du geste, des déplacements. Donc, elle met en place déjà ces trois éléments, avec leur temps, leur tempo, leur durée. Puis, il y a la deuxième partition, qui est celle de la voix, du silence, de l'aléatoire. Et dans la cour d'honneur, c'était aussi du Mistral, par exemple, hein, et de la musique. Et puis, en fait, ces deux partitions, elle les juxtapose et ça lui permet d'avoir ce qu'elle nomme, ou ce qu'elle nommera plus tard, le masque. C'est-à-dire que le masque, c'est-à-dire qu'elle va circuler, donc elle s'est étayée un édifice, une structure solidement ouvragée, c'est-à-dire pierre après pierre, comme un artisan ou comme un ouvrier, véritablement. Et là, à partir de cette construction qui est très 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 solide, elle peut véritablement circuler à l'intérieur de cet édifice avec ses points de repère. Et quand on voit Maria Cazares, par exemple, Franju a filmé cette scène. C'est extraordinaire parce que on voit Maria Cazares qui arrive de l'ombre, qui sort de l'ombre avec cette grande robe noire comme cela, comme une sorte d'araignée noire, hein, qui traverse le plateau. C'est la scène du somnambulisme. Elle a une main devant elle et Maria ose la nudité. Elle ose la nudité du visage. Elle ose la nudité des mains, des bras. Et on a l'impression qu'elle pousse devant elle des forces invisibles, comme si elle était presque hallucinée, alors que elle est totalement consciente de ce qu'elle joue et de ce qu'elle fait. Elle ne perd pas, à aucun moment, elle ne perd la conscience du geste.
Va-t'en. Tâche d'année. Va-t'en.
Le baron de Fife avait une femme. Où est-elle maintenant? Et quoi? Ces mains-là ne seront donc jamais propres? Plus de sang, monseigneur, plus de sang! Tous les parfums de l'Arabie ne rendraient pas plus pure cette petite main.
Quand je la vois dans Lady Macbeth, je la montre d'ailleurs souvent à des jeunes acteurs, je la montre travailler Lady Macbeth avec, avec Villard. Et là, je trouve qu'il se passe quelque chose qui est unique, qui est comme une essence de la tragédie. En quelques gestes, elle nous apprend que la tragédie, c'est pas être malheureux, c'est pas être triste, c'est pas avoir des problèmes, c'est autre chose. C'est accéder à la vérité. Ce qu'elle disait elle-même avec une très belle formule, c'est dénouer le songe bourgeois. Alors, quand elle entrait en scène, parce que par contre, je l'ai vu entrer en scène plusieurs fois, malheureusement pas dans la cour, mais quand elle entrait en scène pour jouer, par exemple, Jeunet, je crois que la dernière fois que je l'ai vue, c'était pour jouer Elle, de Jeunet, la pièce qui s'appelle Elle, où elle jouait le pape. Quand elle entrait, oui, elle brisait les codes du théâtre bourgeois et elle montrait une autre représentation de l'humain.
Maurice Béjart.
Il y a un côté pascalien dans la démarche, il y a un côté religieux espagnol dans l'irreligion. L'Espagne est un pays totalement religieux, mais qui est toujours à la frontière de l'irreligion totale, à la frontière de l'ironie par rapport à la religion.
En fait, pour Maria Cazares, l'acteur est comme une sorte de canal. Et c'est un peu l'image qu'elle avait et qu'elle donnait en disant que l'acteur était un peu comme un tonneau des Danaïdes. Il y avait des flux et des reflux qui le traversaient et c'était véritablement le mouvement de la vie. Et ce qu'elle cherchait, même au théâtre, c'était ce mouvement de la vie qui était là, c'est-à-dire ce flux et ce reflux constant au creuset de la scène qui était là. Et là, elle était là comme une sorte de colonne. Ce qui était extraordinaire quand on la voyait, moi la première fois que j'ai vu Maria Cazares au théâtre, c'était au Théâtre des Célestins, elle était, je la connaissais pas, elle jouait Britannicus. Je voyais une forme hiératique, blanche, dans un péplum blanc, et puis on avait l'impression qu'il y avait une énergie tellurique qui était là, qui montait, et puis ça partait dans les étoiles. Et ça vibrait autour d'elle, tout vibrait autour d'elle. Et je regardais un peu plus loin, ça ne vibrait pas. À droite ou à gauche, ça ne vibrait pas. Mais autour d'elle, il y avait un halo qui vibrait véritablement. Et je lui ai dit plus tard. Et on avait l'impression de voir véritablement une œuvre d'art. C'est-à-dire que moi, j'avais l'impression de voir une sculpture de Giacometti quand je voyais Maria sur scène. C'est-à-dire qu'il y avait véritablement une sorte de façon de se sculpter à l'intérieur d'elle-même, de se modeler, de se qui transparaissait. Et c'était vraiment une œuvre d'art, c'était autre chose. Ce n'était pas un acteur, c'était quelque chose qui était en marche et qui en même temps, on pouvait comprendre et percevoir que à force de travail, parce qu'elle travaillait énormément, eh bien, il y avait cette façon de modeler un personnage qui, pour Maria Cazares, était un soi-disant personnage, pour faire que ça devienne une figure de scène. Voilà, une figure de scène qui représente quelque chose, une force, une idée, un état.
En ce qui concerne la chorégraphie, je n'ai pas besoin de rappeler tout ce que fait Béjart ici depuis 3 ans, qui est considérable. Le seul qui occupe cette cour d'honneur, et avec la grande création que nous allons avoir à la recherche de.
À la recherche d'eux est un spectacle tout d'abord de recherche formelle, c'est-à-dire de recherche d'union des styles, recherche d'union du théâtre parlé avec Cazares et en même temps, cette recherche est également une certaine recherche, disons, métaphysique.
Chorégraphiquement parlant, il en profite, Béchard, puisque
Ariane Dollfuss.
Il y a cette fameuse scène incroyable où Maria Cazares chevauche Maurice Béjart. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Béjart est à quatre pattes et elle est au-dessus de lui, chevaleresque, la Valkyrie dominante. Et ces photos, elles sont très très connues, elles sont devenues vraiment iconiques, comme on dit. Et on voit là toute le rapport de séduction, mais presque trivial entre les deux. C'est quand même très stupéfiant. Enfin, et puis ça fait partie aussi des grands moments d'Avignon, parce que ça a, pour le coup, alors autant la Reine Verte a pu faire fuir un peu le public, ça a plu à la critique, ça n'a pas beaucoup plu au public. Mais là, Nuit obscure en juillet 68 à Avignon, c'est l'apothéose.
Alors, dans Nuit obscure, Maurice Béjart disait que Maria Cazares faisait l'amour sur scène. Ce qu'elle dégage, c'est à la fois du féminin et du masculin. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine androgynie chez Maria Cazares ?
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, à la fin, Béjart a pris pour argent comptant ces vers de Nuit obscure qui disent que l'amante devient amant. Et à la toute fin, la scène finale, Maria Cazares est portée par des danseurs montant vers le ciel, pas les cintres, parce qu'à Avignon, il n'y avait pas de cintres. Et Béjart revêt la robe de Maria Cazares, comme dans une sorte de travestissement et de...
Et d'accouplement, presque.
Et d'accouplement, oui. C'est un peu comme l'après-midi d'un faune, finalement, où le faune récupère le voile de la nymphe et s'allonge dessus dans une espèce de d'orgasme personnel. On peut voir ça aussi comme ça, sur Nuit obscure, peut-être.
D'anima, d'animus...
Au bas de la pente amère, cruellement désespéré du cœur, s'ouvre le cercle des six croix. Très en bas, comme encastré dans la terre mère, désencastré de l'étreinte immonde de la mer qui bave, la terre de charbon noir est le seul emplacement humide dans cette fente de rocher.
Quand on fait beaucoup, quand on joue beaucoup des choses très lourdes, on connaît très bien la cruauté du théâtre. Ça, on la connaît depuis toujours, et surtout quand on s'intéresse aux êtres. Moi, il m'est arrivé pendant des répétitions où l'acteur est nu complètement, il ne sait pas son texte, où il n'a pas encore trouvé ce masque qui n'en est pas un d'ailleurs, mais qui en est un. Il m'est arrivé de partir de la salle parce que je me sentais là comme un voyeur. Et il arrive la même chose avec soi-même. Et on connaît la cruauté, la terrible cruauté du théâtre que j'aime bien. Moi, j'aime bien la cruauté.
Mais qu'est-ce que c'est que la cruauté du théâtre ?
C'est l'endroit où on cherche des masques et des visages transcendés, enfin transfigurés, et quelquefois la transfiguration se fait dans l'autre sens, c'est-à-dire que tout d'un coup on voit le côté minable de chacun, le côté éperdu, minable, mais dans le sens, moi quand je regarde les autres, je suis toujours touchée par ce côté-là. Quand je me regarde, je ne peux pas le supporter.
J'ai voyagé en tout lieu, dans l'espace et dans les temps. Je suis passé à travers les portes closes, j'ai traversé des siècles, j'ai marché de l'autre côté des miroirs, j'ai survécu à la guerre, à la peste, à la mort même, j'ai été la mort et la vie, et l'homme et la femme. Réceptacle des forces vives qui nous meuvent tous, changé en sorcière par le vouloir du poète et la magie du théâtre, je portais en moi le geste ancien comme celui qui allait venir.
J'ai eu des ennuis avec les paravents la première fois, avant d'avoir les gros ennuis du public et tout ça. J'ai eu des ennuis, c'est-à-dire que j'ai commencé à répéter avec Blain, et on répétait la famille seulement. Saïd, la toute petite famille, ouais. Comme ça, on a répété pendant longtemps. Et pendant un mois, je n'arrivais pas à ouvrir la fenêtre. Je n'arrivais pas. J'étais coincée, Blain me disait, bon, c'est une vieille... Elle a une scoliose, je dis, bon, mais ça, c'est dans le costume. Elle marche avec une canne, je dis, oui, mais avec la canne, elle bat. Enfin, j'étais complètement coincée dans une sorte, c'est curieux, de réalisme, tout d'un coup, qui n'allait pas du tout avec la manière de le monter. Et j'étais coincée. Au point qu'au bout de 3 semaines, ou 3 semaines et demie, parce que j'adorais la pièce, je suis allée voir Barreau et Madeleine Rone pour leur dire de me remplacer. Que je ne pouvais pas et que je ne voulais pas abîmer cette pièce, que c'était vraiment dommage. Bon, ils ont un petit peu discuté, puis bon, ils m'ont laissé partir. Puis coup de téléphone, déjeuner, bien sûr, me demandant de me voir tout de suite. Je me dis, je vais voir tout de suite, il est arrivé. En 2 heures, où sans avoir l'air de rien, où il m'a parlé comme ça, il m'a donné 2 images, 3 images tout d'un coup, quand il est parti, la fenêtre est ouverte. Le lendemain, j'ai commencé à répéter, et ça y est. Après, l'invention arrive, bien sûr.
Je crois qu'elle a envisagé ses rôles à la fois comme une performance sportive et comme une chorégraphie. Elle me disait, je ne peux pas savoir qui est cette femme si je ne sais pas comment elle marche. Vous voyez, il y avait l'aspect d'abord du geste, avant même de l'aspect psychologique.
J'ai joué la Médéa de Sénèque. Et puis, des gens me demandaient, après, ça ne te fait rien de tuer tes enfants. Et quand les gens me l'ont demandé, je me suis rendu compte qu'en effet, le personnage tuait les enfants. Mais moi, je ne jouais pas ça du tout. Mais pas ça du tout. D'ailleurs, j'étais très aidée par les enfants, parce qu'eux aussi, ils avaient ce sens-là. Mais enfin, c'est du tout, du tout. Or, je crois qu'il y a beaucoup de comédiens qui cherchent à incarner le personnage avant tout. Et qui peuvent arriver au même résultat. Hein. Mais moi, non. C'est pour ça, quand on me parle de psychologie d'un personnage, je ne comprends rien. En fait, je comprends, mais ça me bouche l'imagination au lieu de m'ouvrir les portes de ce monde-là auquel j'aspire.
Dans le parc de sa propriété à Lavergne, à côté de l'étang, Maria Casares utilise comme fond de scène un vieux pan de mur. Là, elle aime travailler ses rôles. J'aime répéter, j'aime beaucoup moins jouer, dit-elle.
Voilà, c'est là où Maria répétait ses textes avant d'aller à Avignon. Et elle s'allongeait comme ça sur la terre et elle projetait sa voix. Elle projetait sa voix très, 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 très loin. Et en même temps, elle était là sur ce sol. Par exemple, quand elle joue Médée, quand elle est Médée, elle est accroupie sur la terre. Elle est le visage comme ça et la bouche qui est complètement collée à la terre pour sortir, si vous voulez, la note du diapason. Et c'est quand elle a ce diapason-là, cette note-là, qui est là, qu'elle l'a dans la bouche et dans l'oreille, que là, le cri ou le mot peut commencer doucement, 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 à venir très, 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 très loin dans la terre et monter, monter à l'intérieur, la traverser.
Abîme peuplé de mânes impies, toi, chaos de l'éternelle nuit, abîme qui écoute, accepte mes cris. Vous, que Jason l'indigne prit à témoin de ses serments pour moi, oh, justice! C'est à présent qu'il faut surgir. Vos chevelures hérissées de serpents, déesses horrifiées, mais encore plus effrayantes qu'au matin de Ménance quand vous vous êtes dressées. Donnez la mort! Horreur!
En fait, Maria disait toujours qu'il y avait chez elle le visage de Janus. De Janus, donc, à double visage, c'est-à-dire celui qui regarde vers le passé et celui qui déjà prévoit ou prédit le futur à venir. Et ça, c'était quelque chose qui m'avait vraiment marqué avec le fait que il y a une sorte de cycle complet par rapport à Maria, puisqu'elle est née un 21 novembre 1922. Et elle va décéder le 22 novembre 1996. Donc on a l'impression que le cycle a été complètement, quasiment fermé pour renaître peut-être ailleurs, tel le phénix.
Moi, dis-nous, aidez-nous sur mon vêtement d'éternité, les événements comme des aiguillettes. Moi, vous m'avez déjà reconnu. J'y suis, le temps qui passe.
Maria Casares, une force solaire, par Myriam Guillot. Avec Florence Forsyth, Dominique Marny, Ariane Dolphus et Olivier Pi. Voix, Nada Strancar. Archivina, Anne Brulant. Remerciements à Johanna Silberstein, directrice de la maison Maria Casares. Prise de son, Yann Frécy. Mixage, Claude Niort. Réalisation, Lionel Quentin. Coordination, Pascaline Bonnet et Christine Bernard.
Une vie, une œuvre se réécoute et se podcast partout en allant tout simplement sur la page de franceculture.fr. Une page préparée, enrichie et élaborée avec amour par Pascaline Bonnet. Dans un instant, nous retrouvons Étienne Klein et la conversation scientifique.